Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 5 juin 2024. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah, bonjour tout le monde.
Donc, quelles sont les nouvelles financières importantes depuis les deux dernières semaines et aussi pour le mois de mai?
Bien, une des nouvelles qui a retenu notre attention dans les derniers jours, c'est pas nécessairement une nouvelle financière, là, mais on s'entend que Trump a été déclaré coupable. Donc ça, ça l'a quand même fait les médias, puis ça l'a vraiment retenu notre attention. On verra ça va donner quoi l'impact sur les élections éventuellement, mais c'était un événement quand même assez important.
Zéro impact sur les marchés.
Sur les marchés boursiers, ça a passé comme du beurre dans la poêle, comme ma mère.
C'est ça.
Aujourd'hui, la compagnie Nvidia, donc Nvidia qui est le manufacturier de puces électroniques pour principalement l'intelligence artificielle, a atteint une capitalisation boursière de 3 billions de dollars, dépassant ainsi Apple. Donc maintenant, la plus grande entreprise au monde, c'est Microsoft, suivie de Nvidia. Donc c'est vraiment quand même surprenant là, de voir cette entreprise-là qui était quand même très loin derrière il y a 3-4 ans, là maintenant au deuxième rang mondial des entreprises les plus importantes en termes de capitalisation boursière. Aujourd'hui, les marchés ont atteint de nouveaux sommets, autant du côté du Dow Jones, du S&P 500, du Nasdaq. Donc les marchés financiers performent bien, mai a été un mois positif sur le TSX en hausse de 2,8%. Juin débute un petit peu plus tranquille au Canada. C'est surtout le secteur pétrolier qui est en baisse. Le reste va quand même plutôt bien. Les banques aussi ont eu des résultats financiers coup-ci, coup-ça, disons. Là. Donc, il y a certains... La Royal a bien fait, là, mais les autres banques, peut-être une légère correction là, de quelques points de pourcentage. Donc, c'est des secteurs pesants dans l'indice. Ce qui fait que le TSX est en légère baisse là, depuis le début du mois de juin. On est quand même en hausse cette année de 5,6%. Du côté américain, le S&P 500, 4,9 de rendement durant le mois de mai, un autre 1,4 dans les quelques premiers jours de juin. Et du côté du Nasdaq, on est en hausse de 14,5 année à jour, 7% au mois de mai, 2,7 au mois de juin. On a mentionné Nvidia, là, donc le rendement du S&P 500 qui est en hausse de 12,2. Ben juste Nvidia est responsable de 34% de cette performance-là. Donc, s'il n'y avait pas Nvidia dans l'indice, ce serait seulement en hausse d'à peu près 7-8%, plus en ligne avec ce qu'on voit pour le TSX. Donc, les profits des entreprises, là, on vient de terminer la saison des résultats financiers. Les profits des entreprises ont quand même très bien fait en croissance de 10,7% en moyenne. Et les revenus, là, donc les ventes brutes des entreprises en hausse de 3,8%. Et on le dit, la bourse reflète la profitabilité des entreprises. Donc, et même la bourse anticipe la profitabilité des entreprises. Donc, les bourses vont bien depuis un an et demi. Et là, on voit les profits des entreprises quand même bien performer. Alors, on n'aura pas d'excès de conviction puis d'excès d'optimisme, mais Jean-René a mentionné, notre stratège là, a mentionné une phrase qui a retenu mon attention hier sur l'appel. Il faut se rendre compte à quel point la prudente trop hâtive et excessive peut coûter cher. Donc, on avait beaucoup de gens on parle de récession, puis les hausses de taux, ça va faire que les marchés vont éventuellement casser. Mais les marchés vont vraiment très bien depuis un an et demi. Alors, si on était trop prudent sur les lignes de côté, trop dans le caisse, si on essaie trop d'anticiper les marchés, ben on risque de manquer des marchés aussi. On se souvient-tu d'un François Trahan là, qui a essayé de faire peur et à oui. Tout le monde? Ben c'est ça, de la prudence trop hâtive et excessive, ben c'est généralement pas une bonne idée. Donc, c'est ce qui a retenu mon attention là, dernièrement.
Merci beaucoup, Martin. La semaine dernière, on a pris congé de notre balado pour laisser la place à une conférence de Desjardins sur la retraite qui s'intitulait « Oser rêver et le décaissement aussi, ça se planifie ». Super conférence, il y en avait deux. Ouais. On pouvait choisir celui qu'on voulait écouter. Si on veut le réécouter, le lien est encore bon, donc on peut les écouter si on n'a pas eu le temps et on n'a pas pu l'apprécier la semaine dernière. On reprend cette semaine avec un medley de sujets.
Ouais.
Donc, ton idée, puis j'ai trouvé que c'était très bon. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées en peu de temps. Dans un premier temps, il y a eu un changement administratif qui est passé un peu inaperçu probablement pour les clients, mais qui vient un peu modifier l'administration des comptes, nous aide un peu quand les clients ont besoin d'argent à faire des dépôts plus rapidement. Et c'est le règlement T plus 1. Peux-tu nous expliquer de quoi on parle, surtout qu'est-ce que le règlement et quel est l'impact de ce changement?
Donc, c'est quoi le T plus 1? Donc, quand on achète un titre financier, donc aujourd'hui, on est mercredi, j'achète des actions de la Banque de Montréal. En fait, je dois payer mes actions seulement demain. Ce n'est pas aujourd'hui que je suis débité officiellement dans mon compte. Donc, on appelle ça la date de règlement. Avant, c'était 3 jours, c'est tombé à 2 jours. Ça fait un bout de temps que ça roulait à 2 jours. Là, on vient de tomber à 1 jour. Donc, au même titre, donc si je vends mes actions, bien, l'argent, je ne l'ai pas immédiatement, je vais l'avoir juste demain. Donc, ça permet pour les clients qui, par exemple, qui ont besoin d'un retrait de leur compte, ben avant, s'ils nous appelaient le lundi matin pour vendre quelque chose, il y avait juste leur argent comme mercredi, jeudi. Là, ben on va pouvoir envoyer l'argent pour le lendemain parce que c'est règlement directement le lendemain. Ça l'amène un certain défi aussi. Ça, en fait, pas nécessairement un défi, mais on doit jumeler les dates de règlement. Donc, par exemple, si je vends une action en bourse qui est règlement dans 2 jours, pour acheter un certificat de placement garanti qui est règlement aujourd'hui, ben en fait, je devais attendre 2 jours avant d'acheter mon CPG, mon certificat de placement garanti. Il y avait un risque que peut-être le taux d'intérêt était pour changer durant cette période-là. Donc, plus la période de règlement elle est courte, c'est peut-être un défi pour les back-office puis les chambres de compensation, mais pour les investisseurs, on vit dans un monde presque en temps réel, puis c'est un petit peu difficile à comprendre que, OK, je vends des actions en bourse, puis j'ai juste mon argent dans 2 jours. Pourquoi j'ai juste mon argent dans 2 jours? Donc là, on tombe à 1 jour. Je ne serais pas surpris, moi, qu'on s'en aille à T plus 0 là, avant longtemps. Ce serait pas étonnant. Donc, c'est un petit changement. C'est pas un gros impact, mais quand même, nous, ça nous est arrivé là, de vendre des titres, de devoir attendre 2 jours pour acheter un certificat de placement garanti. Les taux changent, là, pour rappeler, pour dire « Ah, ben là, excusez, le taux a baissé un peu durant ce temps-là. » Fait que plus la date de règlement elle est courte, mieux c'est. À l'inverse, par exemple, quand on parlait au téléphone aux clients pour dire « OK, ben là, on s'entend, vous voulez acheter des actions de X. » Donc, on pouvait faire la transaction tout de suite, puis le client avait 2 jours pour payer son achat. Ben là, il faut que l'argent soit dans le compte demain matin. Donc, il faut vraiment, là, en raccourcissant le délai de règlement, ben ça s'assure, on s'assure aussi que l'argent soit là. Puis ça vient éviter, là, la raison que les autorités ont fait ça, c'est un peu pour réduire le risque de règlement des transactions. Donc, par exemple, s'il y avait des vendeurs à découvert qui n'ont pas tout à fait emprunté les titres, donc plus c'est court, moins il y a de chances que finalement le vendeur ne soit pas en mesure de livrer les titres au moment du règlement de la transaction. Donc, on essaie, je pense, de se ramener à un espèce de règlement T plus 0 où là, on vend, puis il y a tout de suite l'argent est disponible comme si c'était une transaction au comptant. Là.
Puis des fois, quand on achète, exemple, une obligation, on peut changer la date de règlement. Donc, c'est pas obligé d'être T plus 1 le lendemain. On pourrait le mettre T plus 2 ou T plus 3 ouais. si on veut que ça règle plus tard parce que l'argent va être disponible. Donc, dans certains ouais. cas, on est capable, pas dans tous les cas.
C'est ça. Les obligations, on a cette flexibilité-là. Les actions, écoutez, ça se fait, là, mais c'est hyper compliqué. Puis après ça, notre transaction ne passe pas sur le marché parce qu'il y a un règlement spécial puis personne ne veut de règlements spéciaux. et les CPG, ben non, faut faire ces règlements le jour même.
Donc, aujourd'hui, Martin, on a fait de l'argent, mais on n'a rien fait pour travailler pour cet argent-là. La Banque du Canada a annoncé une baisse de son taux directeur de 0,25. Donc,
ça a mis comme 1000 piastres dans nos poches.
C'est ça, exactement. Donc, c'est le fun pour tous ceux qui ont des hypothèques à taux variable, moins le fun pour ceux qui ont des comptes à intérêt élevés.
Exact.
Donc, ça va probablement baisser. Pourquoi est-ce que la Banque du Canada a baissé son taux directeur aujourd'hui?
Donc, il y a plusieurs mois, on avait fait un topo sur la Banque du Canada et son rôle, puis on va un petit peu rafraîchir la mémoire des gens. Le mandat défini dans la loi sur la Banque du Canada, c'est de favoriser la prospérité économique et financière du Canada. Donc, qu'est-ce qu'a fait la Banque du Canada, là? Elle favorise la prospérité économique et financière du Canada. Donc, elle a 4 outils pour faire ça. Le premier outil, c'est la politique monétaire. La politique monétaire qui consiste effectivement à fixer le taux d'intérêt à 1 jour. Donc, c'est ce qu'elle a fait. C'est son outil probablement le plus important. Elle a aussi comme... comme fonction de réglementer le système financier. Donc, elle s'emploie à promouvoir la fiabilité, puis la solidité et l'efficacité des systèmes financiers au Canada puis à l'échelle internationale. C'est aussi la Banque du Canada qui émet et conçoit les billets puis la monnaie.
Ouais.
Elle est l'agent financier du gouvernement du Canada. Donc, à ce titre, c'est la Banque du Canada qui gère la dette publique et les réserves de change. Donc, concrètement, pourquoi est-ce que la Banque du Canada baisse son taux? Bien, la fourchette d'inflation cible de la banque, c'est entre 1 et 3 % en visant évidemment dans le milieu à 2 % On s'y approche, on était à 2,7 %. On sait que des mouvements de taux d'intérêt prennent plusieurs mois à faire leur effet dans l'économie. Donc, si la Banque du Canada constate que l'économie au Canada a ralenti, que l'emploi s'est affaibli un petit peu, donc elle en profite pour baisser le taux d'intérêt. On l'a dit un peu à la blague, mais ça fait qu'on va économiser un peu plus de 1 000 d'intérêt. Mais ce 1 000 d'intérêt-là, c'est un 1 000 qu'on va pouvoir dépenser au restaurant ou à acheter des biens et aider à stimuler l'économie.
En réalité, nous autres, on va l'épargner.
En réalité, notre paiement ne va pas changer. C'est le capital qu'on va payer oui. plus. Mais on comprend le principe si quand on va acheter une nouvelle maison puis on calcule son paiement hypothécaire avec le nouveau taux, ben, le paiement est un petit peu plus bas. Ça laisse un petit peu de lousse à l'acheteur pour cet argent-là servir à autre chose.
Ben, puis ça change la perception des gens de est-ce qu'ils sont plus riches ou plus pauvres
là, ouais, en réalité. Puis ça donne presque un peu d'espoir parce qu'on sait qu'il y a un niveau d'endettement qui est élevé au Canada. On sait qu'on a un marché immobilier qui a été très, très fort. On a beaucoup d'acheteurs de maisons qui ont des hypothèques, les chanceux à taux fixe à 1,8, 1,9 %. Ben, ça arrive à échéance. Là, d'ici un an ou deux, ça va être à renouveler. Ils voient ça avec des taux... on était dans des taux fixes de 5,5, 6 % il n'y a pas tellement longtemps. Le taux variable à 6,25, 6,50. Déjà, les taux fixes anticipent les mouvements de la Banque du Canada. Un taux fixe 5 ans d'une hypothèque, là, c'est en bas de 5 là, maintenant. On en profite-tu pour se geler 5 ans? Ben là, la Banque du Canada vient de faire une première baisse de taux. On verra qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Ça, on va laisser les spécialistes hypothécaires faire leurs recommandations à ce niveau-là. Mais on est juste bien content que finalement, on a ri de nous-mêmes pendant quelques temps sur notre hypothèque à taux variable. Mais là, ça commence à baisser.
Ben, puis c'est bon pour les obligations aussi, hein, nos obligations.
Ouais, donc on a un peu l'impression, et ça, c'est très contre-intuitif, de quand les taux d'intérêt baissent, donc l'obligation qu'on a, elle nous paye un revenu fixe dans le temps. Donc, si le taux d'intérêt au marché baisse, la valeur de mon obligation va augmenter en prix. Donc, non seulement je vais continuer de recevoir mon revenu d'intérêt fixe qui était déjà prévu, mais en plus, le prix de mon obligation va augmenter en valeur. Donc, on pourrait se retrouver avec une obligation pépère qui devait faire du 4-5 %. Ben, si elle augmente en prix d'un 4-5 % par-dessus ça parce que les taux d'intérêt baissent de 1 ou 2 % dans la prochaine année ou deux, ben, on pourrait se retrouver avec des obligations qui font du 7, 8, 10 %, là. Tu sais, ça existe, là. Évidemment, si ça l'augmente de 10 % d'un coup, c'est parce qu'il va m'en rester moins à faire plus tard, là. Il n'est pas en train de faire des promesses de rendement puis de dire que c'est sûr que ça va arriver, mais ça l'arrive qu'une obligation peut augmenter en valeur, là, quand même de façon importante. Ça nous permet, après ça, peut-être de revendre le titre puis de faire autre chose avec cet argent.
Oui, donc...
avec réglementé plus un, en plus.
Exact, exact. Donc, des bonnes nouvelles pour nos détenteurs d'obligations aussi. Un autre changement qu'on attend est la nouvelle réglementation concernant le retrait maximum d'un FRV. Ouais. Peux-tu nous expliquer c'est quoi un FRV et quel est ce changement?
Bon, un FRV, c'est un fonds de revenus viagers. Le fonds de revenus viagers, c'est la suite d'un compte de retraite immobilisé. Donc, quand on est un salarié d'une entreprise qui a un fonds de pension et qu'on quitte notre employeur, bien souvent, on a accumulé quelques dollars dans un fonds de pension qu'on peut transférer à son institution financière pour le gérer nous-mêmes. C'est cet argent-là qui provient du fonds de pension qui se retrouve dans un CRI. Étant donné que c'est sujet à la loi sur les régimes de retraite, il y avait toujours un retrait maximum du montant. Donc, un client qui avait un CRI de 100 000 il ne pouvait pas dire « OK, j'ai besoin de 100 000, je veux le retirer au complet ». C'était toujours un maximum de quelques milliers de dollars par année. Ah, donc, le Québec va éliminer le retrait maximum pour les CRI de juridiction Québec. Donc, il y a des CRI, donc chaque régime de retraite est sous une juridiction On en a beaucoup au Québec, on est au Québec, mais ça peut être une juridiction fédérale, ça ne s'applique pas ici. On a certains clients qui ont des CRI de juridiction Ontario. La réglementation est différente, ça ne s'applique pas. Là, on parle vraiment des clients qui ont des CRI de juridiction Québec. Ça devait entrer en vigueur au mois de juillet. C'est reporté, là, visiblement. Bon, les banques et les institutions financières ont demandé, je pense, de prolonger un peu le délai, histoire de pouvoir mettre à jour les systèmes pour le permettre. Donc, essentiellement, on faisait des fois des désimmobilisations. Donc, on voulait éliminer le retrait maximum, et à chaque année, là, on retire un petit montant du FRV qu'on avait
le droit de faire. C'est ça, on avait le droit de faire.
Ouais, ça s'appelait communément là, une désimmobilisation ou la stratégie du flip-flop. Là. On rentrait dans FRV, peu importe la technicalité. Donc ça, le flip-flop ne sera plus permis. Puis de toute façon, c'est juste parce que ce sera plus pertinent de le faire. On pourra retirer un peu comme un REER. Par contre, on ne pourra pas les fusionner ensemble. Donc le client qui a un REER, puis il a son CRI Québec de 30 000 à côté, il ne pourra pas le fusionner ensemble. Ça va quand même demeurer un compte séparé.
Puis la même chose pour le FRV, puis le FER, ils pourront jamais être
fusionnés. Donc, plus de détails à venir, mais c'est quand même un changement. Donc, les clients qui avaient l'habitude de faire une désimmobilisation, puis qui se demandent comment ça qu'on ne les a pas encore appelés, là, c'est parce que c'est plus pertinent de le faire, mais c'est pas encore officiel. Fait qu'on a juste repoussé la tâche un peu plus tard à l'automne pour s'assurer que la loi rentre bel et bien en vigueur.
Donc, dernier point, on a vu la Banque de Montréal, la TD et la Royale racheter leurs actions privilégiées dans les 2-3 dernières semaines. Pourquoi?
Oui, donc les actions privilégiées, c'est une façon que les banques avaient de se financer. Bien, les banques et plusieurs entreprises stables de se financer historiquement. Une action privilégiée, c'est un titre qui donne droit à un dividende privilégié, mais qui ne donne pas droit à la croissance des bénéfices de l'entreprise. Donc, historiquement, c'est des titres qui sont émis à 25 $ qui payent un dividende de 3, 4, 5 puis sont rachetés un jour à 25 $ Puis souvent, ben, l'émetteur là, prolongeait la durée là, presque indéfiniment. Donc, puis c'est un secteur qui a été vraiment malmené. Là. On a eu, on se souvient, il y a quelques mois, Steve DiGregorio qui est venu nous parler d'actions privilégiées. Le secteur reprenait vie, ça s'est poursuivi, ça continue de bien aller, mais il y a eu vraiment des années de vaches maigres. Et là, soudainement, on a des émetteurs comme les banques qui rachètent les actions privilégiées. Donc, tu sais, des titres qui transigeaient à 15, 16, 18 piastres il y a quelques mois, ils se font racheter à 25. Donc, je pense que les clients sont bien contents de récupérer leur capital. Par contre, ils doivent se trouver un nouveau titre. Pourquoi les banques le rachètent? Parce que le surintendant des institutions financières a permis une nouvelle façon aux banques de se financer. En anglais, là, le LRCN, Limited Recourse Capital Note. Donc, dans notre jargon, on parle des LRCN, mais en français, des billets avec remboursement de capital à recours limité.
Mais c'est pas quelque chose qu'on peut acheter.
C'est des produits institutionnels seulement. Ça ne s'achète pas là, d'un point de vue particulier. C'est une façon plus économique pour les banques de se financer parce que ils payent un taux d'intérêt là-dessus et non de dividende. Donc, ils payent avant impôt et alors que le dividende est payé après impôt. Donc, comme elles ont une façon de se financer qui leur coûte moins cher, le surintendant leur a permis là, de compter ça dans leur capital réglementaire. Donc, elles en profitent pour retirer les actions privilégiées. Qu'est-ce que ça crée? Ben, la loi de l'offre et la demande, la loi numéro un en économie, ben, si on retire de l'offre puis qu'il y a toujours de la demande, ben, les prix montent, tout simplement. Donc, à mesure qu'il y a de moins en moins d'actions privilégiées en circulation, on voit une tendance à la hausse sur le prix des actions privilégiées qui restent parce que cet argent-là qui a été racheté de 20... Tu sais, j'ai 20 000 d'actions de la Banque de Montréal privilégiées qui est racheté, ben je fais quoi avec mon 20 000? Ben j'en trouve une autre puis j'en rachète d'autres. Fait que ça crée de la valeur pour les actions, des actions qui restent. Fait que on n'en a pas une tonne d'actions privilégiées, mais il y en a quand même plusieurs clients là, qui en ont quelques-unes. Peut-être vous avez remarqué que les prix sont à la hausse là, depuis un an, puis ça se poursuit. Ben, c'est ce phénomène-là qui explique là, cette hausse de prix des actions privilégiées. C'est la rareté que crée le rachat par les institutions financières de leurs actions privilégiées.
Ben, merci beaucoup, Martin. C'est pour ça que c'est impossible de planifier le marché puis de savoir exactement quand on va acheter quelque chose. Parce qu'on peut avoir de la nouvelle réglementation, des nouvelles façons de se financer, peut avoir des impacts sur nos produits financiers. Donc, merci pour nos clients et partenaires. Si vous avez des questions concernant ce balado, communiquez avec nous. Martin et moi sommes toujours disponibles pour discuter de vos besoins, vos questions ou objectifs financiers personnels. Merci pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.